Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation en le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes dans les explications du chapitre 14 de l'évangéliste Saint-Luc, expliquant la parabole de ceux qui sont invités au banquet. Un grand souper, donc sur le polycopier qui comporte les commentaires des pères de l'Église, les chapitres 11 à 15 de Saint-Luc, à la page 33. Donc je vous rappelle ce texte, je vais relire puisque j'avais simplement commencé les explications la dernière fois. Donc sur le polycopier, à la page 32, vous avez le texte. Je vous lis la partie qui nous concerne, verset 16 et suivant du chapitre 14 de Saint-Luc. Un homme fit un grand souper et invita de nombreux convives. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux invités de venir parce qu'il était tout prêt, tout était prêt. Mais tous unanimement commencèrent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté une terre, il est nécessaire que j'aille la voir, je vous en prie, excusez-moi. » Le second dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, je vous en prie, excusez-moi. » Un autre dit « J'ai épousé une femme et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur apporta cela à son maître. Alors le père de famille, irrité, dit à son serviteur, « Allez promptement sur les places et dans les rues de la ville et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur, dit ensuite, « Seigneur, ce que vous avez commandé a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Allez dans les chemins et le long des haies et contraignez les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Ce texte est particulièrement important. D'ailleurs, on le voit très bien dans les commentaires des pères. J'ai trouvé beaucoup de pères d'Église qui en parlent. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a certains passages de l'Écriture sainte qui ont été plus expliqués que d'autres. Ce texte est très important à cause des conséquences pour chacun d'entre nous. Il est évident que nous sommes tous représentés dans cette parabole. Ce grand souper auquel nous sommes invités par le père de famille, eh bien, ce père de famille, c'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, qui invite à un grand souper dans sa maison. Sa maison, c'est l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ est fondateur de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique, en dehors de laquelle il ne peut y avoir de salut. Et ceux qui étaient invités ne vont pas accepter de venir. Ils vont être remplacés par d'autres. C'est un point théologique extrêmement important dont j'ai souvent parlé, qui est politiquement tout à fait incorrect aujourd'hui, donc les gens ne veulent plus entendre parler de ça. C'est pourtant comme ça qu'expliquent tous les pères de l'Église. Les gens qui étaient les premiers invités, je vous l'ai déjà expliqué, mais je réexplique pour être sûr que ça rentre bien dans les esprits. Les gens qui étaient les premiers invités, c'était le peuple élu. Le peuple élu de l'Ancien Testament, le peuple juif, étaient ceux qui étaient invités. Et Dieu avait préparé ce peuple pendant des siècles et des siècles à travers les anges, depuis les tout premiers prophètes, les tout premiers patriarches de l'Ancien Testament, remontés jusqu'à Abraham, 2000 ans avant notre Seigneur. Et depuis les tout premiers prophètes, les tout premiers patriarches, eh bien, Dieu avait préparé ce peuple qui avait reçu une mission extraordinaire de recevoir dans leur chair, littéralement, le Messie. Et Dieu avait voulu donc d'une façon toute spéciale préparer psychologiquement, j'allais dire, ce peuple à recevoir le Messie. Et une partie de ce peuple a reçu. N'oublions pas encore une fois que toutes tous les premiers catholiques étaient des juifs convertis, tous. Et ils n'ont pas voulu venir. Cette invitation est donc transférée à d'autres personnes. Allez promptement sur les places, dit le Père au serviteur, dans les rues de la ville, amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux qui n'étaient pas invités au début. Ça, c'est le deuxième peuple qui va remplacer le premier. Et il faut bien comprendre que les excuses qui sont avancées par les premiers qui étaient invités pour ne pas venir s'adressent aussi au deuxième peuple, attention. Et qu'il ne faut pas non plus interpréter de travers ce texte en disant qu'il n'y a que les juifs qui sont concernés et pas les catholiques qui vont remplacer les juifs, mais pas du tout. Ce texte s'adresse aussi aux catholiques. Et c'est ce que vont expliquer les pères, que ces excuses que vont avancer ceux qui étaient invités en premier lieu, j'ai épousé une femme, j'ai acheté 5 paires de bœufs, j'ai acheté une terre, et ces excuses vont aussi être utilisées plus tard par ceux qui sont appelés à remplacer le peuple juif. Et donc, puisque ceux qui ont refusé, qui étaient les premiers invités, qui ont refusé cette invitation, ont été exclus du banquet, la même chose peut arriver à ceux qui sont invités en deuxième lieu. Donc nous, les catholiques, si nous invoquons les mêmes excuses, eh bien, nous allons avoir les mêmes conséquences. Nous aussi, nous pouvons trouver des excuses. Nous allons expliquer ces excuses maintenant à partir des pères. Eh bien, le bon Dieu va dire au deuxième groupe d'invités, c'est-à-dire aux catholiques, aucun de ces hommes qui avaient été invités en deuxième lieu ne goûtera de mon souper. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères. Donc j'ai déjà expliqué la dernière fois, je m'excuse de revenir un peu sur le dernier cours, mais c'est un point de doctrine extrêmement important. Donc ce souper, pour bien montrer justement qu'il faut passer au niveau spirituel, là c'est une allégorie en quelque sorte. Plus exactement, il faut voir le sens tropologique de ce texte, c'est-à-dire le sens moral. D'ailleurs, le texte indiqué par notre Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas qu'il parlait en parabole à ses disciples, et ici c'est une parabole, et donc il faut trouver le sens moral, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte représente pour chacun d'entre nous? Eh bien, ce souper, je vous l'ai déjà expliqué, je reviens rapidement là-dessus, représente un élément surnaturel, ça représente l'incarnation du Fils de Dieu. Je vous l'ai déjà expliqué souvent, c'est les pères de l'Église qui parlent, c'est pas moi, je me contente de répéter ce que disent les pères, ce sont les pères qui ont l'interprétation, la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, c'est pas moi. Les pères de l'Église expliquent bien que, en général, ce souper est considéré comme un souper de mariage. Et ce mariage, c'est le mariage entre l'humanité et la divinité, entre notre Seigneur Jésus-Christ, dans la même personne. La divinité qui épouse l'humanité pécheresse que nous avons tous, notre Seigneur Jésus-Christ épouse notre humanité, la prend entièrement sur lui, sauf bien sûr le péché, mais il va quand même prendre tous nos péchés sur sa divinité afin de pouvoir les pardonner. Alors il va unir dans ce mariage l'humanité et la divinité sans détruire ni l'une ni l'autre. L'humanité demeure, la divinité demeure dans la même personne. C'est le mystère de l'incarnation. Alors attention, le mystère de l'incarnation doit être bien compris, il ne peut pas être compris de travers. Il ne faut pas prendre le mystère de l'incarnation comme une espèce de mélange dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, un mélange entre sa divinité et son humanité, notre Seigneur devenant une espèce d'homme-dieu avec une nature hybride en quelque sorte, qui est à la fois un mélange d'humanité et de divinité, ce n'est pas du tout ça. Notre Seigneur Jésus-Christ a une double nature. Il est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Ce n'est pas un mélange. C'est la divinité qui s'unit à l'humanité. Pour prouver ce que je viens de vous dire, je voudrais relire un des textes théologiques les plus importants, un texte extrêmement ancien qu'on appelle le symbole de Saint Athanase. Bon, il est discuté entre les historiens pour savoir s'il doit vraiment être attribué à Saint Athanase. Certains prétendent qu'il aurait été rédigé en latin un peu plus tard, au 5e siècle. On l'appelle le symbole de Saint Athanase, donc on a le droit de croire, moi je crois naïvement que ce texte vient vraiment de Saint Athanase, d'où son nom. Voilà ce que dit ce texte fondamental, un des textes les plus importants, un des credos, c'est pour ça qu'on appelle le symbole de Saint Athanase. Le symbole, c'est un mot grec qui veut dire, on peut le traduire symbole par résumé si vous voulez, une réunion de plusieurs choses, c'est un étendard, un signe de ralliement, un signe de distinction. Je vous lis au moins la première partie de ce texte, un petit peu long, mais ça explique bien la doctrine de l'Église que ce texte de Saint-Luc explique. « Quiconque veut être sauvé, dit saint Athanase, un grand docteur de l'Église grecque, quiconque veut être sauvé doit avant tout se maintenir dans la foi catholique. Un grand docteur de l'Église. Donc voilà ce qu'il dit. Quiconque veut être sauvé doit avant tout se maintenir dans la foi catholique. Celui qui ne l'aura pas gardée entière et inviolable périra certainement pour l'éternité. Or, la foi catholique consiste à révérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Sans confondre les personnes, ni diviser la substance. Donc il n'y a pas une espèce de mélange entre les deux natures humaines. Et divine en notre Seigneur. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Donc les trois personnes sont vraiment distinctes. Saint Athanase continue, la divinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit est une, la gloire égale, la majesté éternelle. Tel qu'est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé, le Fils incréé, le Saint-Esprit incréé. Le Père est immense, le Fils immense, le Saint-Esprit immense. Éternel le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Néanmoins, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. Comme aussi, ce ne sont pas trois incréés et trois immenses, mais un seul incréé, un seul immense. De même, le Père est tout-puissant, le Fils tout-puissant, le Saint-Esprit tout-puissant. Cependant, néanmoins, il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Néanmoins, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Néanmoins, il n'y a pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige de confesser que chacune des trois personnes prises à part est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous défend de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'est ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre. Le Fils est du Père seul, il n'a pas été fait, ni créé, mais il est engendré. Le Saint-Esprit est du Père et du Fils, il n'a pas été fait, ni créé, ni engendré, il procède. Il n'y a donc qu'un seul Père, et non trois pères, un seul Dieu, un seul Fils, et non trois fils, un seul Esprit Saint, et non trois saints d'esprit. Et dans cette Trinité, il n'y a rien d'antérieur, ni de postérieur, ni de plus grand, ni de moindre, mais les personnes sont toutes trois coéternelles et égales entre elles. En sorte qu'en tout et partout, comme il a été dit ci-dessous, on doit révérer l'unité en la Trinité et la Trinité en l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Trinité. Alors cette partie, donc, c'est vraiment toute la théologie de l'Église qui est résumée dans ce texte magnifique de Saint Athanase sur la Sainte Trinité. Voilà la deuxième partie donc, qui nous intéresse plus, qui touche à l'incarnation. Il est nécessaire encore, pour le salut éternel, qu'il croit fidèlement à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc pas une opinion de l'Église, une obligation. Et Saint Athanase répète à plusieurs reprises, quiconque veut être sauvé doit se maintenir dans la foi catholique. Celui qui veut être sauvé doit penser ainsi. Saint Athanase n'avait que faire de l'écuménisme fou d'aujourd'hui. Donc, il est nécessaire encore, continue Saint Athanase, pour le salut éternel, que le fidèle croie finalement l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. La droiture de la foi consiste à croire et à confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu, étant engendré la substance de son Père avant les siècles. Mais il est homme, étant né de la substance d'une mère dans tous les temps. Dieu parfait, homme parfait, subsistant dans une âme raisonnable et un corps humain. Égal au Père selon la divinité, moindre que le Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est néanmoins qu'un seul Christ et non deux. Il est un, non que la divinité ait été changée en humanité, mais parce que Dieu a pris l'humanité et se l'est unie. Il est un enfin, non par confusion de substance, mais par unité de personne, deux natures donc en une personne. Car comme homme, âme raisonnable et chair est un, ainsi le Christ un est Dieu et homme. Lui qui a souffert pour notre salut est descendu aux enfers, etc. Ensuite, c'est un résumé des autres parties du credo. Donc on voit très bien la doctrine de l'Église sur ce sujet qui est clair et qui est ici répété par les pères. Donc cette invitation, ou ce mariage suivi de ce grand souper représente le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. C'est-à-dire, je rappelle la signification du mot incarnation, prendre chair. L'incarnation, c'est le mystère par lequel la deuxième personne de la très sainte Trinité a pris une chair humaine dans le sein très pur de sa mère, la très sainte Vierge Marie, le 25 mars, 9 mois donc avant sa naissance, dans la grotte de Bethléem. Les pères disent aussi que ce souper représente non seulement l'incarnation, mais aussi la Sainte Eucharistie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne se contente pas de prendre notre nature humaine, il ne n'unit pas donc sa nature humaine à sa nature divine dans sa personne, mais il veut en plus donner à l'homme, il s'unit lui-même, il unit lui-même dans sa personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, l'humanité et la divinité, mais en même temps, il veut donner son humanité à l'humanité, c'est-à-dire qu'il se donne la nourriture à chacun d'entre nous. Parce que disent les pères, l'homme est Dieu, le Père, l'homme est... Et Dieu le Père qui a préparé pour nous un grand souper dans le Christ. Le Christ est homme, car il nous a donné son propre corps à manger. Enfin, sens anagogique cette fois-ci, le souper représente la joie et la gloire du paradis. D'accord? Alors, voyons, je m'étais arrêté là la dernière fois, je m'excuse de répéter, mais ça, c'est des points de doctrine extrêmement importants qui sont totalement nié aujourd'hui dans l'église de Vatican II. N'oublions pas que j'insiste auprès des gens qui m'écoutent. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'écoutent et qui ne sont pas habitués à la tradition de l'église. J'ai découvert qu'il y a des gens qui écoutent ces conférences, mais qui ne sont ou pas catholiques ou qui sont encore habitués à aller à l'église de Vatican II. Et donc, évidemment, ils se rendent bien compte, mieux que tout autre, de la contradiction totale entre l'enseignement catholique traditionnel et l'enseignement de Vatican II. Alors, continuons avec ce que disent les pères, donc ils vont approfondir ce point, donc c'est cet homme, ce riche père de famille, le texte ne précise pas qui il est, un homme fit un grand souper et invita de nombreux convives. Donc, par les deux termes, le fait que ce soit un grand souper et que de nombreux convives soient invités, on sent que c'est un homme puissant. Rien de plus grand ne peut être imaginé, car c'est Dieu lui-même, disent les pères, qui devient notre nourriture et notre fête. La jouissance inexprimable de Dieu qui comblera toutes les attentes des bienheureux. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne soient point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il n'y a aucun Dieu qui unit sa créature au Créateur de cette façon. Tous les faux dieux de l'Antiquité, si vous voulez, tous les faux dieux du monde moderne, évidemment, étant des faux dieux, sont incapables de faire une chose pareille. Dieu a tant aimé les hommes qu'il va envoyer son propre Fils s'unir à notre humanité. Pensez d'une humiliation pour le Créateur de l'humanité, d'unir la divinité à une humanité pécheresse. Et notre Seigneur a vraiment pris sur lui la nature humaine. Imaginez, c'est une comparaison toute bête, mais imaginez un homme de très grande noblesse, un roi, un empereur extraordinaire, et qui avec des habits d'or magnifiques, symbole de sa puissance royale exceptionnelle, et qui va littéralement charger sur ses épaules un pauvre homme qu'il a rencontré au bord de la route, un miséreux couvert de poux, couvert de poussière, couvert d'excréments, couvert de saleté, couvert donc de misère, et qui va porter sur ses propres vêtements royaux ce pauvre homme, le mettre sur ses épaules et l'amener à l'hôpital. C'est un peu l'image. C'est l'image, l'histoire évidemment magnifique du bon Samaritain. Le bon Samaritain, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça souvent, j'y reviens pas. Le bon Samaritain qui prend l'homme qui est à moitié mort, qui vient déjà de soigner un minimum au bord de la route, en versant sur ses plaies l'huile et le vin, et il va le placer sur sa propre monture. eh bien, cette monture qui est chargée du poids de l'homme moribond représente l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le servant envoyé, d'après d'autres pères, il y a différentes interprétations des pères, le servant envoyé est le Christ lui-même. C'est-à-dire que l'homme qui fait le grand souper, le chef de famille, c'est Dieu le Père. Le servant qui est envoyé pour récupérer les invités, c'est le Christ lui-même, qui est Dieu par nature et le vrai Fils de Dieu, qui se vide pour prendre la forme d'un serviteur. C'est une belle expression des pères. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation, se vide pour prendre la forme d'un serviteur. Il vide le contenu pour remplacer le contenu par notre humanité. Il fut envoyé au temps du souper, car le Verbe ne prit pas sur lui notre nature au début, mais à la fin. Rappelez-vous, il y a eu un autre texte des Pères qu'on avait déjà expliqué. On appelle souper car il est donné le soir, à la fin du monde, quand la vie, les épreuves sont terminées. Il sera notre seul éternel rafraîchissement et douceur, disaient les Pères. Donc, autre interprétation, cette fois-ci Saint Grégoire le Grand, ce servant, pardon, envoyé par le maître de la famille pour nous inviter au souper, représente le prédicateur. Donc ça peut être plusieurs interprétations, vous voyez. Donc le Christ ou le prédicateur qui va chercher les moribonds au nom de celui qui l'envoie. Celui qui l'envoie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a trois étapes. Dieu le Père qui envoie son Fils, le Fils qui envoie le prédicateur. Donc Dieu le Père qui envoie son Fils s'unir à notre nature par le mystère de l'incarnation. Et le Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, vrai Dieu et vrai homme, qui va s'envoyer lui-même par la personne du serviteur, à savoir par le sacerdoce, il va l'envoyer pour se donner lui-même en nourriture à ceux qu'il est allé chercher et qu'il est venu sauver. Donc il va envoyer un autre lui-même, le Christ est un autre, le prédicateur, c'est-à-dire le prêtre est un autre Christ, il va envoyer le prédicateur pour amener à la salle du banquet, l'Église catholique, celui qui est moribond. Donc ce servant envoyé par le maître de famille représente donc le prédicateur, le prêtre, c'est le sacerdoce qui est désigné là. J'ai acheté une terre, il est nécessaire que j'aille la voir, dit le premier. Cet achat d'une terre dénote le gouvernement, disent les pères. C'est ainsi que c'est l'orgueil donc qui est le premier vice réprouvé, car le premier homme voulut diriger sans avoir de maître. Ça, c'est une allusion au péché originel. Adam et Ève qui veulent se prendre pour Dieu. Alors, autre interprétation, c'est un petit peu mélangé parce que j'ai du mal à classer. Dans cette partie-là, à classer les différents textes des pères, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai tout travaillé à partir de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. Il met bout à bout les différents commentaires des pères de l'Église sur ces versets. Et comme il met ça par paragraphe. Donc il va grouper les textes sacrés par paragraphe et ensuite mettre tous les commentaires sur ce paragraphe. Donc on trouve chez saint Thomas parfois apparemment un certain désordre dans les citations des pères. Il met les citations des pères les unes au bout des autres, sans lien entre les citations. Et donc, comme ici c'est une partie qui contient une vingtaine de versets, verset 15 au verset 24 de chapitre 14 de Saint-Luc, eh bien c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. En tout cas, moi j'ai eu un petit peu de mal. Donc, ce n'est pas très ordonné dans mon texte ici. Enfin, un texte que j'ai repris à partir surtout de saint Thomas d'Aquin. Et puis, on retrouve le même problème avec Cornelius à Lapide, qui est aussi très abondant. Donc, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Ce sont les 5 sens de la chair. Ça, c'est saint Augustin qui part. La vue dans les yeux, l'ouïe dans les oreilles, l'odorat dans le nez, le goût dans la bouche et le toucher dans tous les membres. La paire est plus apparente dans les 3 premiers sens. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, ce sont les 3 paires. Un commentaire de saint Augustin. Dans la bouche, le sens du goût est double, car rien n'est sensible au goût qui n'ait touché à la fois la langue et le palais. De même, le plaisir de la chair, qui appartient au toucher, est secrètement double, car il est à la fois intérieur et extérieur. Par ses sens de la chair, on poursuit les choses terrestres. Donc celui qui a acheté les 5 paires de bœufs, c'est celui qui suit les 5 sens au lieu de suivre son intelligence. L'homme, ne croyant qu'à ce qu'il a vu et par le biais des 5 sens, est empêché d'aller au souper par les 5 paires de bœufs. C'est comme un fil à la patte qui l'empêche de s'élever vers le bon Dieu. On ne voit pas ici seulement les délices des 5 sens, toutes les choses, c'est les 3 concupiscences qui sont représentées là, hein, c'est-à-dire la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, et aussi l'orgueil. Donc ils sont représentés par ces 5 paires de bœufs. Et au lieu d'accepter l'invitation du maître, eh bien on reste lié aux choses matérielles. Les 5 paires de bœufs représentent donc les choses matérielles, le corps, qui nous empêche d'une certaine façon de nous élever avec l'âme. On ne voit pas ici seulement les délices des 5 sens qui charment et amènent au plaisir, dit saint Augustin, mais aussi une certaine curiosité. Et d'où le texte, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Il y a non seulement, je reste attaché aux choses matérielles, mais je suis de plus en plus attiré par ces choses matérielles. Après, les invités qui s'excusent, tous unanimement, dit le verset 18, commencèrent à s'excuser. Les invités qui s'excusent, à cause de leur ferme ou de leurs 5 paires de bœufs, ou de leur mariage, cachent leur orgueil derrière une fausse humilité. « Je vous en prie, excusez-moi, » disent-ils, « car l'esprit humain dégénéré par les plaisirs mondains devient faible pour se préoccuper des choses de Dieu. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une espèce de combat constant dans notre vie entre ce que veut le bon Dieu et ce que nous voulons nous-mêmes. C'est ce combat dont parlent les pères et dont parle aussi saint Paul. Il y a une double tendance chez moi, explique-t-il, en disant qu'il explique bien que je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je ne voudrais pas faire. Il y a la volonté du bon Dieu qui nous attire avec suavité d'un côté, mais la volonté de l'homme qui tire de l'autre côté, ce qu'on appelle le combat spirituel. Et le combat spirituel ne peut être mené à bien que justement par la vertu de pénitence. Rappelez-vous, j'ai souvent déjà parlé, je n'y reviens pas, qu'il n'y a que 2 chemins pour aller au ciel. La voie de l'innocence et la voie de la pénitence. Et tous ceux qui ont commis un péché, moi le premier, eh bien, à partir du moment où on a commis un seul péché, même un simple péché vénial, la voie de pénitence est fermée, la voie de l'innocence est fermée définitivement à toute personne qui a commis un péché, même un seul péché vénial. Donc dans la pratique, ne peuvent utiliser la voie d'innocence pour aller au ciel que les bébés qui meurent après le baptême. Alors, cette dernière phrase, j'insiste, qui est très belle des pères, l'esprit mondain dégénéré par les plaisirs mondains devient faible pour se préoccuper des choses de Dieu. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup des pères, qui est magnifique et qui, sur laquelle le lecteur doit méditer. L'esprit humain dégénéré par quoi ? À cause du péché originel, par les plaisirs mondains, devient faible pour se préoccuper des choses de Dieu. C'est-à-dire, plus on est attiré, plus on a de paires de bœufs, c'est-à-dire, plus on a de choses matérielles, plus il devient difficile pour nous de nous préoccuper des choses de Dieu. Et on voit très bien dans le monde moderne. Le monde moderne cherche à nous couvrir de choses matérielles pour qu'on n'ait plus de place pour les choses spirituelles. Le corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus important, parce qu'on se préoccupe trop des choses matérielles représentées par ces 5 paires de bœufs, et du coup, on a l'impossibilité de s'élever vers le ciel. L'âme ne peut plus se détacher des choses terrestres, parce qu'elle est engluée dans ces choses terrestres, comme si vous voulez, un oiseau qui s'est posé dans la boue du péché, ou qui s'est posé sur un arbre avec des chasseurs à côté à l'affût qui chassent à la glu, et il a les pattes collées à l'arbre à cause de la glu sur laquelle il s'est posé sans le faire exprès, et du coup il n'arrive plus à s'envoler parce qu'il est attaché par les pattes à cette branche à cause de la glu qui a été déposée par le chasseur sous la branche. Et donc le chasseur peut venir et s'emparer de l'oiseau qui va finir en fricassé. Mais c'est exactement ce qui se passe, il faut méditer là-dessus. On ne peut pas à la fois suivre les plaisirs de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaisirs spirituels, les plaisirs temporels, les plaisirs matériels. On le voit très très bien dans le monde moderne. Donc il faut se sortir impérativement. Je ne dis pas, je ne demande pas à mes fidèles de vivre comme des hommes de Cro-Magnon sans aucune chose matérielle. Ce n'est pas possible. On est bien obligé par la force des choses d'avoir un petit peu des contacts avec les choses matérielles. Vous êtes bien obligés, vous et moi. Moi-même, j'ai un ordinateur, j'utilise Internet souvent pour pouvoir ne serait-ce que travailler et envoyer ces prédications que je fais, ces cours que je donne par Internet, ceux qui veulent bien m'écouter. Bon. Mais il ne faut pas être trop attaché à ces choses-là et s'imposer des règles strictes pour ne pas perdre son temps. À pas perdre son temps justement avec trop de choses matérielles. Je crois qu'un des exemples typiques qu'on peut utiliser, c'est les jeux vidéo. Je maintiens que les jeux vidéo sont extrêmement dangereux à ce niveau-là dans les familles chrétiennes. J'aimerais bien que les familles chrétiennes se coupent complètement des jeux vidéo. Parce que ça prend énormément de temps, c'est très addictif, et on finit par passer un temps considérable à ces choses-là. Je ne dis pas que de regarder un jeu vidéo de temps en temps, de jouer avec un jeu vidéo de temps en temps, est un péché, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ces jeux vidéo vont prendre une importance de plus en plus fondamentale, vont alourdir l'âme, de telle façon qu'elle ne peut plus s'envoler, s'élever vers le bon Dieu. Et donc, on a le droit de se détendre. Mais essayez de vous détendre les courtes choses que les jeux vidéo. Quand je vois des gamins de 12, 13, 14 ans qui sont englués aux jeux vidéo, collés aux jeux vidéo, sur lesquels ils passent des heures et des heures, même parfois dans certaines familles catholiques, ça c'est absolument pas normal. Bon, encore une fois, un peu de détente, oui. Mais faites attention avec l'usage d'Internet, hein, parce que ces écrans attirent l'homme moderne, comme l'aimant attire la limaille de fer. Hein. Donc il fait extrêmement attention avec ces choses-là. Utiliser Internet dans la mesure où Internet nous aide à monter vers le bon Dieu, très bien. Il y a des choses très intéressantes sur Internet, mais sur Internet, il y a tout. Il y a des choses bonnes, des choses mauvaises, et des choses qui sont en soi indifférentes et qui peuvent être ou bonnes ou mauvaises, ou nous élever vers le haut, nous abaisser vers le bas, selon les circonstances. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Regarder un film de temps en temps, quand il y en a un de bon, ce qui n'est pas évident de trouver, de temps en temps sur Internet, très bien. Regarder un film tous les jours, non, ça ne va plus. Là, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose de déraisonnable. Vous voyez ? Et donc, faites attention à ne pas devenir esclave de ces choses-là. Celui, donc, vous voyez ici, dans le texte sacré, qui a acheté 5 paires de bœufs, qui doit les essayer, il pourrait attendre. Les bœufs ne vont pas mourir sous prétexte que vous êtes invité à un festin, qu'il faut d'abord aller au festin avant d'essayer les paires de bœufs. Mais il va les essayer. Les paires viennent de dire que cela représente la curiosité. N'oubliez pas que lorsque le pape Saint-Pédis, en 1907, a condamné le modernisme, quand dans les racines du modernisme, il met justement la curiosité, l'orgueil, l'ignorance, et l'amour des nouveautés ou les curiosités, la curiosité. L'amour des nouveautés ou la curiosité, c'est la même chose. Et ça, c'est un piège utilisé par le monde moderne. Attention à cette curiosité. Ayez la curiosité des choses traditionnelles. Comme les choses traditionnelles ne changent pas, il n'y a pas besoin de chercher des choses nouvelles avec les choses traditionnelles, puisqu'elles sont toujours les mêmes. Dieu ne changeant pas. D'où cette phrase, l'esprit humain dégénéré par les plaisirs mondains devient faible pour se préoccuper des choses de Dieu. Donc si j'ai mon intelligence qui a été dégénérée ou même affaiblie par les plaisirs du monde, je dois m'en détacher au moins en partie pour pouvoir me préoccuper des choses de Dieu. Alors Saint Grégoire fait la même analyse à propos du mariage. Une des excuses, on va expliquer ça, une des excuses utilisées par les invités, j'ai épousé une femme. Je me suis marié, c'est pourquoi je ne puis venir. Saint Grégoire commente, bien que le mariage soit bon et donné par la divine providence pour la propagation des enfants, certains y cherchent le plaisir de la luxure. Je vous rappelle que l'Église catholique a toujours enseigné que la fin première du mariage n'était pas l'amour mutuel entre les époux, mais la procréation et l'éducation des enfants. C'est la fin principale à laquelle sont annexées deux fins secondaires, l'amour mutuel entre les époux et le remède à la concupiscence. Mais la fin principale n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux, mais la propagation de la race humaine, l'éducation, la procréation et l'éducation. Alors saint Augustin va commenter à partir du texte de saint Jean. Tout ce qui est dans ce monde, dit saint Jean dans son épître, c'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie. Concupiscence de la chair, toutes les tentations d'impureté. Concupiscence des yeux, la tentation de tout avoir et l'orgueil de la vie. On retrouve ça dans cette parabole, dit-il. C'est un texte très important de saint Augustin qui est très connu. Saint Augustin va donc analyser les trois excuses données par les invités. Première excuse, donc voilà le texte. Tous unanimement, dans tous ceux qui sont invités, donc Dieu le Père envoie Dieu le Fils chercher les hommes pour les inviter à venir à son souper. C'est-à-dire à venir utiliser les conséquences du mystère de l'incarnation, du mystère de la rédemption. Donc, il envoie notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père envoie notre Seigneur Jésus-Christ dire aux invités, tous les hommes, de venir parce que tout était prêt. Et tous unanimement commencèrent à s'excuser. Première excuse, j'ai acheté une terre, il est nécessaire que j'aille la voir. Je vous en prie, excusez-moi. Deuxième excuse, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Je vous en prie, excusez-moi. Troisième excuse, j'ai épousé une femme. Et c'est pourquoi je ne puis venir. Il ne faut pas s'arrêter au terme matériel de ces excuses. Il faut analyser, aller beaucoup plus loin. C'est ce que fait saint Augustin. Donc, première excuse, j'ai acheté une terre. Il est nécessaire que j'aille la voir. Eh bien, saint Augustin explique, cette terre à laquelle nous nous attachons trop représente l'orgueil de la vie. Deuxième excuse, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Ça représente la concupiscence des yeux. Troisième excuse, j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne puis venir. Ça représente la concupiscence de la chair. Donc en soi, attention, bien comprendre, ne pas comprendre de travers le texte, Dieu ne dit pas, l'Église ne dit pas qu'il est mauvais de se marier, qu'il est mauvais d'avoir une propriété privée, et qu'il est mauvais d'avoir des choses matérielles, ce n'est pas du tout ce que dit l'Église. Le mariage est quelque chose de bon, donc attention, on n'est pas des cathares. Les albigeois prétendaient que le mariage, en tant que tel, était quelque chose qui correspondait au dieu de la matière, donc quelque chose de mauvais, c'est une espèce de manichéisme. Le mariage est quelque chose de bon, sacré, a été sacralisé par notre Seigneur Jésus-Christ, par le mariage de Cana, sa présence à Cana, il a élevé le mariage naturel au niveau sacramental. Le mariage est une chose bonne. Bon. De même, la propriété privée est quelque chose de bon en soi. Le travail est quelque chose de bon. Mais le démon va nous pousser à utiliser ces choses de façon déraisonnable. Donc c'est ce que dit saint Grégoire. Le mariage est bon, donné par la divine providence pour la propagation des enfants, mais certains y cherchent le plaisir de la luxure. Prenons un exemple tout simple. La nourriture est une chose bonne ou mauvaise? La nourriture est une chose bonne. On ne peut pas vivre sans manger, c'est impossible. Mais si vous commencez à... Tant que vous mangez pour vivre, c'est bon. Si vous vivez pour manger, ça devient déraisonnable. On tombe dans la gourmandise. De même, le bon Dieu a placé dans le sacrement de mariage, dans l'union physique entre les deux époux, un plaisir intense qui est bon. Du moment qu'on utilise ce plaisir pour pouvoir remplir la fin pour laquelle le bon Dieu a institué le sacrement de mariage, à savoir la procréation et l'éducation des enfants, c'est bon. Mais si je veux couper ce plaisir de sa fin et me marier exclusivement pour le plaisir associé à l'acte conjugal, à ce moment-là, ça devient déraisonnable, c'est là où le péché intervient. Alors, je vous donne un petit peu en vrac les différents commentaires que j'ai trouvés sur les pères, donc surtout à partir des textes de saint Thomas d'Aquin et des textes de Cornelius à Lapide. D'abord Origène, voilà ce que dit ce grand docteur de l'Église, certainement un des plus grands docteurs de l'Église, surtout en matière d'interprétation de l'Écriture sainte, bien qu'il ne soit pas canonisé. À cause de certains abus, certains excès qu'il a eus, surtout à la fin de sa vie, Origène et Tertullien sont les deux très importants pères de l'Église, des grands docteurs qui n'ont pas été canonisés par l'Église. Origène, à cause d'un excès placé dans certaines interprétations, pratiquement était devenu millénariste, et Tertullien, à cause de sa rigidité, son rigorisme, il était tombé dans une secte rigoriste qu'on appelle le donatisme. Mais saint Thomas d'Aquin lui-même cite très souvent Origène. C'est certainement un des pères de l'Église le plus cité par les pères de l'Église, bien qu'il ne soit pas canonisé. Voilà ce que dit Origène. Ceux qui ont acheté une terre et rejeté ou refusé le souper sont ceux qui ont suivi d'autres doctrines sur la divinité Avec une faute d'orthographe là, il faut que je corrige. Je crois qu'il n'y a pas d'S. Ceux qui ont acheté une terre et rejeté ou refusé le souper sont ceux qui ont suivi d'autres doctrines sur la divinité tout en méprisant le monde qu'ils possédaient. Donc, c'est l'allusion à certaines hérésies qui sont parties de points de doctrine qui étaient vrais, par exemple la Sainte Trinité, mais qui ont déformé un point de doctrine qui était vrai originairement. Et la déformation, on l'a transformée en hérésie. Prenez par exemple l'incarnation, l'union de l'humanité et la divinité entre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut prêcher cette union entre l'humanité et la divinité entre le Seigneur Jésus-Christ, mais tout en reconnaissant que l'humanité reste entière et la divinité reste entière. Donc vous avez deux hérésies possibles, soit d'un côté, soit de l'autre. Il faut garder un équilibre. Il y a ceux qui vont trop pousser sur l'humanité et oublier la divinité, et ceux qui vont trop pousser sur la divinité et oublier l'humanité. Donc, ceux qui ont acheté une terre et ont refusé l'invitation au souper, donc sont ceux qui ont suivi des doctrines hérétiques, dit saint Origène. Deuxièmement, celui qui a acheté 5 paires de bœufs est celui qui néglige sa nature spirituelle et suit les choses des sens. Donc il est trop attaché aux choses matérielles et conclut Origène, il ne peut comprendre sa nature spirituelle. Plus on est englué avec les choses matérielles, moins on a de possibilités, de facilités à comprendre les choses spirituelles. On le voit très bien dans le monde moderne. La difficulté qu'ont la plupart des gens qui sont englués dans les choses matérielles, surtout dans la culture des écrans, la difficulté qu'ils ont à s'élever vers les choses spirituelles. Troisième point, dit Origène, celui qui a épousé une femme, qui s'est marié donc, a rejoint les plaisirs de la chair et les aime plus que Dieu. Aimer les plaisirs de la chair dans le cadre du mariage, c'est pas un péché, attention. Attention, c'est pas un péché. Il faut faire attention parce que même dans ce domaine-là, on entend parfois, y compris chez les traditionnalistes, des inepties sur le sujet. J'ai entendu, je ne donnerai pas de nom bien sûr, j'ai entendu des traditionnalistes dire que l'acte conjugal n'était licite entre des époux que pour avoir un enfant. Et ça, c'est complètement faux. On n'a pas le droit de dire ça. L'acte conjugal est licite entre deux époux, y compris dans les périodes agénésiques, c'est-à-dire lorsque l'épouse, pour des raisons physiques, cycliques, à cause de son cycle féminin, ne peut pas être stérile. Des époux, par exemple, ont parfaitement le droit, des époux âgés, ont parfaitement le droit de jouir encore de l'acte conjugal entre eux, même s'ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants parce que madame, par exemple, a passé l'âge de la procréation et est rentrée en ménopause. Et donc, faire attention. Donc, je répète cet enseignement d'Origène. Première chose, j'ai acheté une terre, cela représente ceux qui suivent les doctrines hérétiques. Deuxièmement, j'ai acheté 5 paires de bœufs, cela représente celui qui néglige sa nature spirituelle et qui suit trop les choses temporelles et sensibles et qui ne peut donc comprendre sa nature spirituelle. J'ai épousé une femme, représente ceux qui sont qui suivent trop les plaisirs de la chair et qui aiment les plaisirs de la chair plus que Dieu. Aimer la nourriture, c'est pas un péché. Aimer la nourriture plus que Dieu, c'en est un. Aimer son épouse, c'est une bonne chose. Aimer son épouse ou son époux plus que Dieu, ça va plus. Passons à la page 34. Excusez-moi d'aller un petit peu lentement sur ces parties-là, mais elles sont tellement importantes. Je prépare ces cours avec le polycopie devant moi. Je souligne, avant de vous donner le cours, je souligne moi-même. Je prends mon polycopie, j'ai imprimé évidemment, et je souligne les parties clés pour arriver à me retrouver dans le cours que je donne, que j'essaie de donner plus exactement. Et bien, dans cette partie-là, je vois la page 34, j'ai pratiquement tout souligné, tellement tout est important. Et je souligne et puis je mets des étoiles sur le côté, des astérix sur le côté, selon l'importance. Une astérix pour les choses importantes, deux astérix pour les choses plus importantes et 3 astérix pour les choses capitales. Et sur cette page-là, j'ai souligné beaucoup, beaucoup de choses. Enseignement de saint Ambroise, l'évêque de Milan. 3 classes d'hommes sont exclus de toute participation au banquet. Les gentils, les juifs et les hérétiques. Les juifs, dit saint Ambroise, par leur service charnel, s'imposent le joug de la loi mosaïque, qui est devenue mortifère, exactement la loi dans l'Ancien Testament, qui est devenue mortifère depuis l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. notre Seigneur Jésus-Christ est le même. Attention, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est le même Dieu, bien entendu. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ va transformer la loi de crainte en loi d'amour. La loi de crainte correspond à l'Ancien Testament, la loi d'amour au Nouveau Testament. Et les purifications, les gestes de purification qui existaient dans l'Ancien Testament, à commencer par la circoncision pour les hommes, sont devenus mortifères aujourd'hui. Il serait absolument anormal, et tout à fait choquant pour un catholique, de se faire circoncire, de circoncire ses enfants aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça représente un acte d'appartenance à la religion juive, laquelle est devenue une fausse religion depuis l'arrivée de notre Seigneur sur la terre. Donc, les Juifs, par leur service Chanel, s'imposent le joug de la loi, car les cinq paires de bœufs représentent le joug des 10 commandements que Dieu nous commande de suivre, gravés sur 2 tables de paires. Donc, 5 paires, 5 fois 2, ça fait 10. Donc, le joug des 10 commandements, attention, les 10 commandements, il ne faut pas comprendre ce texte de travers, les 10 commandements demeurent tant pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament. Les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Il faut toujours adorer notre Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Il faut aimer Dieu plus que tout. Il faut aimer son prochain comme pour l'amour de Dieu. Il faut ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Ces choses demeurent, c'est évident, que la nature humaine demeure. Autre commentaire de saint Ambroise, celui qui a acheté une terre est étranger au royaume, ainsi que celui qui a choisi le joug de la loi au lieu du don de la grâce, ou encore celui qui s'excuse parce qu'il a pris femme. Donc si vous voulez, il faut monter avec notre Seigneur Jésus-Christ, on part de la loi naturelle, on passe ensuite à la loi de la grâce pour arriver à la gloire. Donc quelqu'un qui resterait bloqué sur la loi ancienne et qui refuserait la loi de la grâce c'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, eh bien serait en dehors de la vérité. Autre commentaire des pères, un grand nombre de juifs sont déjà rentrés dans la salle du festin. Mais il n'y a pas de place dans le royaume à cause de l'abondance des gentils qui doivent y être reçus. Voilà pourquoi il est ajouté, le maître dit au serviteur, allez, dans les chemins et le long des haies, obligez-les à entrer pour que ma maison soit remplie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ veut, si vous voulez, littéralement faire un miracle pour permettre que tout le monde, il veut qu'une seule chose, c'est que tout le monde soit sauvé. La volonté de Dieu, de volonté antécédente, c'est que tous les hommes soient sauvés. Même si de volonté conséquente, il ne peut faire entrer dans la salle du festin que ceux qui montent patte blanche. Quels sont ceux qui vont monter patte blanche? Ceux qui peuvent s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité. Donc pour entrer dans cette salle du banquet, qui en fin de compte est une anticipation du ciel, ce ciel, pour entrer au ciel, est une condition sine qua non, être en état de grâce, c'est-à-dire avoir la charité, l'habitation en nous de la Sainte Trinité dans notre âme avant de rentrer, sinon je reste à la porte. Alors, autre commentaire des pères, ceux qui sont recueillis dans les chemins le long des haies, c'est le texte du verset 23, allez dans les chemins le long des haies, contraignez les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Vous voyez, il y a même un aspect de conquête, si vous voulez, un aspect apostolique, obligez littéralement les gens à venir chez moi, à venir dans mon église. Ceux qui sont recueillis dans les chemins et le long des haies sont les ruraux, c'est-à-dire les gentils, les non-juifs, qui ne sont pas absorbés par le désir des biens présents, mais qui se préservent vers le futur sur le chemin de la bonne volonté. Ils se mettent en route pour rentrer vers le ciel. C'est pour cela que l'Église a toujours envoyé des missionnaires dans le monde entier pour transformer les hommes et les amener à la véritable religion. On voit les absurdités du monde moderne actuellement. Aux États-Unis, ils sont en train de changer toutes les lois dans les universités américaines pour, notamment dans l'histoire de la conquête, par exemple, l'Espagne, de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, pour faire croire aux étudiants qui gobent tout ça comme des mouches, leur faire croire que l'Église catholique est responsable d'avoir aboli cette magnifique religion des Aztèques. Et donc, il y a eu un texte de loi maintenant pour essayer de, qui se prépare pour essayer de dire qu'il faut, au contraire, abolir l'Église catholique, changer l'histoire pour enlever tout, les choses, toutes les choses abominables apportées par les catholiques et reprendre l'adoration des Aztèques. Ils ont même fait des prières, ils ont repris des prières pour adorer le Dieu des Aztèques. Le dieu des Aztèques, c'est un dieu qui commandait l'infanticide, qui commandait le meurtre. Vous savez que pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan, près de Mexico, il y a eu 60 ou 70 000 victimes humaines. Voilà cette religion magnifique, d'après le monde moderne, qu'il faut remettre en valeur. Alors que les missionnaires, qu'est-ce qu'ils ont dit aux Aztèques? Vous n'avez plus besoin d'abreuver votre Dieu, le soleil, avec du sang humain, du sang frais. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné son propre sang. Et maintenant, vous allez utiliser le sang de la messe, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang sacramentel de notre Seigneur Jésus-Christ qui descend sur l'autel au cours de la Sainte Messe. Vous n'avez plus besoin d'offrir des sacrifices humains. Le monde moderne est tellement païen, tellement paganisé qu'il veut revenir à ces sacrifices de l'ancien temps. C'est ahurissant, il est vraiment tombé sur la tête. Alors, les pères expliquent certains termes. Aller dans les chemins le long des haies. Celui qui est comme une haie, Haie, séparant les champs cultivés des zones sans culture, protégeant ces champs de l'incursion des animaux domestiques, sait comment distinguer le bien du mal et maintient fermement devant lui le bouclier de la foi contre les tentations des faiblesses spirituelles. Les haies vont nous permettre de rester sur le chemin. On ne va pas partir à droite et à gauche piétiner les champs, on reste entre les haies pour rester sur le chemin. Donc, selon saint Augustin, les rues et les chemins représentent les gentils. Les haies représentent les hérétiques, car ceux qui font une haie cherchent la division. Il faut donc les éloigner des haies, les isoler des épines. Mais ils ne veulent pas être forcés et suivre leur volonté propre. Il faut donc les pousser de l'extérieur, puis leur volonté se forgera. D'où le texte, contraindre les gens d'entrer. Un texte un peu spécial. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le texte ici au verset 23, Saint-Luc qui parle, veut contraindre les gens d'entrer. Alors, tout le problème est de savoir comment notre Seigneur Jésus-Christ peut contraindre les gens de rentrer dans la salle du festin tout en respectant leur volonté propre. Là, on touche un mystère extraordinaire de la grâce. La grâce est toute puissante, mais en même temps, cette grâce toute puissante de Dieu respecte la volonté propre. La grâce est toute puissante, mais la volonté de l'homme est aussi en grande partie toute puissante. Donc, Dieu nous donne sa grâce sans violer notre volonté propre. Autre texte important, page 34. Les scribes, les pharisiens et les grands prêtres sont ici clairement désignés. Ils avaient été invités par le Christ à la fête de l'Évangile, mais n'ont pas pris au sérieux cette invitation, trop préoccupés qu'ils étaient par leur ferme, c'est-à-dire par leur possession mondaine, et n'eurent ni le temps ni l'inclination pour penser au salut des âmes. Donc, vous voyez ici, on voit très bien que tous ceux qui cherchent des excuses, les invités qui sont convoqués, ils cherchent des excuses, représentent donc les scribes, les pharisiens, les grands prêtres de l'Ancien Testament. Alors, selon saint Bernard, par ces différentes figures, on y voit les différentes espèces de péchés, les avares, les luxurieux, les colériques, les ambitieux, les orgueilleux qui sont fiers de leur possession, satisfaits d'eux-mêmes, qui ne sont jamais contents car toujours assoiffés des choses de ce monde. Donc, ils n'écoutent pas et n'obéissent pas à l'appel du bon Dieu. Alors, le démon va utiliser un peu ce qu'il veut. Lui, c'est lui complètement égal que les gens utilisent comme excuse pour ne pas venir, d'avoir épousé une femme, d'avoir acheté 5 paires de bœufs, d'avoir acheté une terre. Ça lui est complètement égal. Le démon va utiliser ses excuses. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on ne rentre pas dans la salle du festin, qu'on ne soit pas sauvé. Donc le démon, en fonction de nos tempéraments, va utiliser plutôt la tentation à concupiscence de la chair avec certains, avec d'autres à concupiscence des yeux, et avec d'autres à concupiscence de l'orgueil. Avec certains, il va utiliser même deux concupiscences sur trois, et avec certains, malheureusement, il va utiliser 3 concupiscences à la fois. À nous de ne pas nous faire rouler par le démon. Alors, les 5 paires de bœufs représentent les 5 sens, j'ai déjà expliqué un peu ça avant, qui sont appelés joues, parce qu'ils sont doubles pour les hommes et pour les femmes. Le Christ aurait voulu que les scribes soient les premiers à le reconnaître à cause de leur position, pour qu'ils soient ensuite ses témoins parmi le peuple. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Les prêtres et les chefs des peuples refusèrent de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ à leur place, sont les humbles et les méprisés de la nation qui furent choisis. J'ai déjà expliqué, c'est ce qu'on appelle la substitution. Donc Dieu a remplacé un peuple par un autre peuple. N'oubliez pas ce que j'ai expliqué très souvent, ce que les catholiques aujourd'hui oublient un peu trop, c'est que de même que notre Seigneur Jésus-Christ a substitué les catholiques aux juifs en arrivant au moment de la déchirure du rideau du temple, a bien marqué que l'Ancien Testament a déterminé qu'il fallait maintenant rentrer dans le royaume de la grâce avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ va faire la même chose que les catholiques. D'ailleurs, on voit très bien que c'est ce qui se passe actuellement. L'immense majorité des catholiques agit comme les juifs par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ en refusant l'intégralité et la beauté de la tradition catholique. Ils refusent tout ça, ils envoient promener tout l'enseignement dogmatique de l'Église pour se précipiter vers des choses complètement nouvelles avec l'écuménisme, la liberté de conscience et la collégialité de Vatican II. Et donc, eh bien, ils vont être remplacés par d'autres catholiques ou d'autres personnes qui vont devenir des catholiques. La plus grande joie en tant que prêtre, c'est de pouvoir prêcher les exercices à des gens qui ne sont pas catholiques. Et on sent très bien que souvent ces catholiques convaincus, ces catholiques convertis, donc du paganisme ou de fausse religion, ça vient au même, ces nouveaux catholiques sont en général beaucoup plus fervents des catholiques qui sont catholiques depuis le berceau. Dieu, c'est saint Paul qui parle, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles du monde pour confondre les forts. Donc, conclusion des pères, une très belle conclusion, j'aime beaucoup ce texte. Laissons les pauvres et les mendiants venir à la fête à l'invitation de celui qui s'est fait pauvre pour qu'il puisse devenir riche. Dieu envoie son fils qui devient pauvre et mendiant pour enrichir les pauvres et nourrir les mendiants que nous sommes. Donc Dieu unit sa divinité avec notre humanité pour que par le mystère de la Sainte Eucharistie, le mystère de l'incarnation, les conséquences du mystère de l'incarnation, nous puissions unir notre humanité avec sa divinité. Saint Augustin, je vous l'ai souvent cité, va jusqu'à dire « Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu ». L'homme est littéralement divinisé d'une certaine façon, par exemple, par la réception de la Sainte Eucharistie. L'homme est divinisé d'une certaine façon par la réception de la grâce. Et l'homme sera encore plus divinisé par l'entrée dans la gloire du paradis. Évidemment, il ne faut pas comprendre le texte de Saint Augustin de travers. Il ne faut pas tomber non plus dans une idolâtrie de l'homme, pas du tout. Ce n'est pas l'homme qui devient Dieu qui perd sa divinité, son humanité devient divin, c'est pas ça du tout. Mais l'homme unit son humanité avec sa divinité. La divinité va attirer l'humanité. Donc, laissons les pauvres et les mendiants à l'invitation de celui qui s'est fait pauvre pour qu'il puisse devenir riche. Laissons les faibles venir, car le physicien n'a pas besoin de ceux qui sont en bonne santé, mais de ceux qui sont malades. Dieu n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Laissons les boiteux venir et dire « Guidez mes pas selon votre parole ». Laissons les aveugles venir et proclamer à leur tour « Éclairez mes yeux, que je ne dorme pas du sommeil de la mort ». Texte magnifique des pères. Donc, lorsque le serviteur part, le père de famille lui donne l'ordre « Allez promptement sur les places et dans les rues des villes, amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux ». Qu'est-ce que ça représente? Mais ça représente tous ceux qui cherchent Dieu. Donc ceux qui sont dans la pauvreté, dans la mendicité, dans la faiblesse, qui sont incapables de marcher droit, qui ne voient plus rien. Donc Dieu va nourrir les pauvres, nourrir les mendiants, raffermir les faibles, remettre droit les pieds des boiteux et éclairer ceux qui sont dans la cécité. Notre Seigneur Jésus-Christ est le médecin de nos âmes. Ces pauvres et misérables créatures qui sont toutes invitées nous enseignent que personne ne doit être méprisé car le salut dans le Christ est offert à tous. Il est plus facile pour les pauvres d'obéir aux préceptes évangéliques et de se sauver que pour les riches. Et personne ne doit espérer de son salut, même s'il est pourri, aveugle et perverse. Et c'est un texte fort des pères. Personne ne doit désespérer de son salut, parce qu'il est, même s'il est pourri, aveugle et perverse. On est tous un peu pourris, un peu aveugles, un peu perverses. Hein. Péché mortel, c'est ça. Chaque fois que je laisse le péché mortel rentrer dans mon âme, je pourris mon âme, j'aveugle mon âme et je pervertis mon âme. Alors que les Israélites, en bas de la page 34, je vais terminer cette page. Alors que les Israélites furent rassemblés, le peuple des gentils fut aussi appelé. Ils étaient des hommes nés et éduqués dans la campagne, dans les chemins et les haies, loin de la ville, sans culture. Ils furent forcés de rentrer dans la salle du festin. De nombreuses nations des gentils étaient toutes données à l'idolâtrie et au vice. Elles furent obligées au salut par le zèle brûlant et l'énergie. Faute d'orthographe encore à corriger ici. L'énergie des prédicateurs par les miracles et même par les fléaux et les jugements envoyés par eux. Par Dieu. Donc Dieu est venu d'abord pour les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Donc il ne faut pas dire je suis trop pauvre, je suis trop misérable, je suis trop aveugle et trop boiteux pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Le bon Dieu est venu pour les malades. Voilà, donc je vais arrêter là. Nous en sommes donc en haut de la page 35. Et nous reprendrons, si Dieu veut, pour le cours de mercredi prochain. Je rappelle, ceux qui m'écoutent, que j'ai encore des places pour les différentes retraites. Je vous donne les dates. Donc la retraite de Semaine Sainte est pleine maintenant, mais j'ai encore de la place pour les retraites du 26 avril au 1er mai, du 7 juin au 12 juin, du 13 septembre au 18 septembre, et du 18 octobre au 23 octobre. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pélisse, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.